Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech.
Allez, on est reparti, débrief de la tech. Si vous avez manqué la première partie, on a parlé du pape justement et de cette encyclique Magnifica Humanitas où le Vatican a pris position par rapport à l'IA. Et puis on a vu ce lien aussi, enfin cette opposition avec ce qui se passe aux États-Unis où là le décret sur la sécurité de l'IA, il a été balayé par Donald Trump sous la pression de Zuckerberg, de Mark Zuckerberg et de Elon Musk. On poursuit avec Thomas Serval, CEO de Barracuda, Augustin Sierre, cofondateur d'OVNI, et Michel Lévy-Provençal, fondateur de TEDx Paris, l'agence Brightness. Michel, c'est une étude Eurostat qui dit que les entreprises européennes, alors plutôt les PME, les ETI, n'adoptent pas l'IA. Il y en a même qui trouvent que, enfin, c'est un tout petit pourcentage, mais c'est pas utile.
En fait, la France, c'est à l'échelle européenne. Hein. Oui. Parce que la France est plutôt en avance quand on regarde les chiffres. On n'a pas les chiffres exacts sur les entreprises. Je les ai cherchés pour l'émission. On a les chiffres, en revanche, sur les Français qui utilisent l'IA. Il faut savoir qu'on est près de 50% de Français qui avons adopté l'IA. Ça, c'est les chiffres du Crédoc. Ce qui est quand même massif. Quand on regarde ce qui se passe dans les entreprises...
Alors, sur les accidents conversationnels, hein, attention, c'est un peu plutôt l'un des développeurs. Bien mais
d'accord,
déjà,
je parle de chatbot, IA, voilà,
mais on sait que ça marche, on sait que ça existe.
Mais c'est quand même impressionnant, en l'espace de quelques années, d'avoir 50% de la population française qui bascule sur une technologie. Ce qu'on disait, c'est la technologie qui a été la plus rapidement disséminée. Quand on regarde les chiffres, c'est une étude de Microsoft qui date de février 2026. En revanche, dans les entreprises, 61% des collaborateurs français utilisent des outils d'IA en dehors du cadre officiel de l'entreprise. Ça veut dire que 61% des acteurs dans les entreprises font du shadow IA. Autrement dit, l'IA pénètre dans la population et dans les entreprises par les utilisateurs eux-mêmes individuellement, pas par les entreprises qui proposent des solutions, proposent des cadres. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les principaux freins qui sont détectés, ce sont des freins de régulation et des freins qui sont liés à de l'incertitude juridique et des risques liés aux données. Autrement dit, je finirai là-dessus, c'est encore une fois l'AI Act, la RGPD, qui nous met dedans, aujourd'hui dans l'économie française, face à l'IA.
Thomas, ça va.
Déjà, depuis 15 ans, les techs arrivent par les consommateurs. En fait, c'est à partir de 2005.
Bring your own device, voilà,
c'est une tendance qui est arrivée avec le mobile. On se rappelle, c'est vraiment le mobile qui a montré ce truc-là. Donc, c'est pas anormal que la tech arrive par les utilisateurs parce que finalement, c'est quand même moins coûteux que les utilisateurs se forment eux-mêmes à utiliser les outils que de faire une formation spéciale et obligatoire. Donc, moi, j'y vois pas le fait, j'y vois pas un quelque chose de négatif. Nous, on essaye d'amener des outils IA dans les entreprises et on est confronté à plusieurs freins. Donc moi, il faut en toute full disclosure, je suis ambassadeur à l'IA. C'est un des trucs qui a été créé par le gouvernement pour justement animer la communauté des gens. Donc tout le monde s'intéresse. Il n'y a pas un chef d'entreprise qui ne voudra pas te rencontrer si tu ne parles pas d'IA. Si tu veux des budgets et vendre quelque chose dans l'IT d'une entreprise, s'il n'y a pas écrit AI dessus, tu n'es même pas reçu. C'est pour ça d'ailleurs que les boîtes de SaaS sont en train de souffrir. C'est que même si on en a terriblement besoin de logiciels de comptabilité, s'il n'y a pas d'IA dedans, tu ne fais rien. Alors il y a eu deux vagues. Il y a eu une première qui a été finalement un faux départ. C'est Microsoft, là, avec Copilot, a introduit ou a donné l'impression à l'ensemble des entreprises qu'en introduisant Copilot, ils introduisaient l'IA. Et ça, ça a créé un double effet.
Hein. On avait sa suite Office et à côté, on avait Copilot qui allait nous ranger nos mails.
Et on a bien vu d'ailleurs avec l'accord avec OpenAI que ça a créé une sorte de, en France comme partout dans le monde, ça a créé une sorte d'ambiguïté. C'est que tout d'un coup, l'IA est devenue Copilot parce que Madame Michu, elle ne comprend pas vraiment la différence. Et même quelqu'un, il utilise Copilot et puis ça marche pas très très bien. Quand on regarde ce que fait Copilot par rapport à ce que peut faire Claude, etc. Donc il y a eu un.
Alors ça s'améliore, mais c'est vrai que
c'est moins. C'est resté un petit peu en décalage. Et donc quelque part, ce qui fait peur, d'abord il faut voir que les boîtes françaises n'ont jamais été des early adopteurs, vraiment jamais. C'est-à-dire qu'on n'essaye jamais les nouvelles technologies avant tout le monde. La France est un pays absolument horrible pour un créateur de start-up de ce point de vue-là, en termes de risque d'innovation. Les gens sont averses au risque. Deuxièmement, les problématiques qu'ont les entreprises françaises, malheureusement en ce moment, elles sont plutôt liées à la réduction des coûts, aux problématiques de l'environnement économique qui est extrêmement dégradé. On a une augmentation du taux de défaillance des entreprises. Donc quelque part, c'est quand même pas une période propice à notamment dans les PME, à investir massivement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse différence entre les grosses entreprises multinationales exposées aux marchés internationaux qui, elles, investissent massivement dans l'IA parce qu'elles sont confrontées à la concurrence internationale. Mmh. Puis après, il y a les PME, on va dire, de services qui, elles, sont dans une sorte de truc très fragile qui a été fragilisé depuis le Covid et qui continue à avoir du mal, ne serait-ce qu'à rembourser leur PGE et qui n'arrivent même pas à sortir la tête de l'eau. Et si on leur parle d'IA, ils disent oui, mais t'es bien, comment je paye déjà les salaires et comment
surtout
je...
parfois, quand on leur parle d'IA, ben, de façon éthique, dont on a parlé tout à l'heure, de suppression d'emploi, c'est dire oui, moi, si je mets ça et que.
Et il y a une peur.
Parce qu'il y a auprès des collaborateurs. Hein,
et après, il y a une peur qui est réelle, c'est qu'effectivement, l'IA va être destructeur d'emploi et que la France réagit en général très mal à ce genre de prédiction.
Augustin.
Si je peux juste rajouter ce que vous avez dit, c'est parce que l'Europe a un retard réglementaire. Dans le sens, en fait, il faut se débarrasser notamment de l'AI Act et bon, RGPD. Il y a du bon avec dans le tout ce qui est consentement de data, gestion de data, etc. Mais le reste, en fait, c'est non seulement c'est un coût dans nos startups, c'est un coût pour que nos sociétés se modernisent. Et c'est vrai que c'est intéressant. Nous, on a un noscripteur, c'est un gros corpo français. Et en fait, il nous dit que chaque fois qu'on lui propose des startups, on lui dit ah tu devrais essayer cette startup. Franchement, nous ça nous permet d'économiser une heure par jour là-dessus. Et en fait, il te dit je peux le faire à titre perso, mais à titre pro, en fait, j'ai pas le droit. Et c'est même pas un monde où, en fait, il pourrait le faire sur parler à son boss, au CTO, dire bon allez, on va essayer de mettre ça et dans 6, 12 mois machin. Mais non, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est souvent des startups qui viennent des États-Unis, qui se contrefoutent de tout ce qui est réglementation à la noix en Europe. Et en fait, ça ne marchera pas. En fait, ils ne peuvent pas légalement adopter certaines innovations qui viennent des États-Unis. Et c'est malheureux parce qu'en fait, on se retrouve avec des travailleurs qui le font de le côté, qui le font sur le côté, mais la boîte peut pas le faire.
Et qui le font sur le côté en plus avec plutôt des plateformes américaines en plus.
Ouais.
Là, tu prends le point de vue d'une boîte, une grosse boîte française qui tente d'utiliser une solution américaine, mais prends le point de vue d'une start-up française. Il s'avère que je lance une activité sur l'IA depuis 3 mois en lançant une start-up en France. La première question qu'on se pose, c'est la régulation. Comment allons-nous faire pour être capable de prouver qu'on répond à l'AI Act et à la RGPD ? Vous vous rendez compte que quand on lance une boîte aujourd'hui en France, dans l'IA, la première chose qu'on se pose comme question, avant même de s'interroger sur le marché, avant même de s'interroger sur la levée de fonds, avant même, c'est est-ce que, parce que c'est une question de pérennité. Si jamais on prend un mauvais pli, potentiellement, on se met en risque. Et c'est des risques conséquents. Et je ne vous dis pas les factures d'avocats qui vont avec, évidemment. Donc, on a un énorme problème, on se tire une balle dans le pied pour les grands groupes, tu l'as dit, sur l'adoption d'outils, mais aussi pour les startups et pour les PME.
C'est ce que dit cette étude, en tout cas.
Complètement.
Je ne sais pas si tu as vu, il y a une étude qui est sortie sur Twitter là, d'un gars qui montrait qu'aux États-Unis, les deux nationalités qui créent le plus de licornes par rapport au nombre d'immigrés qui habitent aux États-Unis, le premier, c'est les Israéliens. Je crois que c'est genre pour un Américain, il y a 162. Enfin, les Israéliens, genre, c'est le numéro 1. Numéro 2, c'est les Français. Et en fait, c'est marrant parce que moi, ça me désespère de voir ce génie français dans l'entrepreneuriat. Je ne sais plus qui de vous deux disait. Ah oui, c'est toi qui disais que les Français, en fait, mettent du temps à adopter les technologies. Et en fait, je pense que les Français, ils ont envie d'adopter les technologies rapidement aujourd'hui. Et malheureusement, on ne leur laisse pas. C'est un peu ce que toi, tu disais. Et en fait, t'as des génies qui partent aux États-Unis monter des boîtes et ça crée de la richesse que les Américains bénéficient et pas les Européens.
Dans l'échange que j'ai eu avec mon bot, avec mon robot là cet après-midi, il me disait sur ce sujet-là, le problème principal, il est ni technologique ni culturel, il est réglementaire. Donc, ça rejoignait ce que
tu disais. À Shenzhen, les Français sont aussi très très forts ils sont à fond. Oui. Dès lors que tu leur enlèves de la régulation, ils entreprennent comme
ça. Mais vous voyez, on se dit ça aujourd'hui. En fait, on a le constat devant nous. Et qu'est-ce qui se passe là, à la Commission européenne? Est-ce qu'il y en a un qui est en train de parler? Il faut démonter les AIA qui a été monté par quelqu'un. Enfin, il y a personne, il y a rien.
Là, on a eu. D'ailleurs, tu pourras regarder ça sur YouTube. C'était la semaine dernière. Arthur Mensch est entendu en commission parlementaire par
trois personnes.
Trois personnes.
Beaucoup écouté sur YouTube.
Beaucoup écouté sur YouTube. Donc au moins, c'est sorti. Mais je pense par la communauté. Mais par contre, c'est vrai qu'on aurait aimé voir plus de députés. Qui soit présent.
Compétent.
Parce qu'il y a 2-3 questions qui étaient un petit peu. Vous parlez, vos data centers, ils doivent se déployer, alors que sur des terrains sur lesquels on faisait pousser des betteraves, il y avait un côté écologique. Bon, mais non, mais. On en est là. Mais Arthur Mensch, il l'a dit clairement. Il a dit à un moment, il faut pas se leurrer. Si on a cette réglementation qui continue, on n'y arrivera pas.
Il dit, on a deux ans.
Ouais.
En plus, si on ne réagit pas dans deux ans, c'est terminé.
Non, regardez, là, il y a le digital omnibus pour le RGPD. Bon, franchement, RGPD, c'est bon, c'est passé, quoi. Ce qu'il faut vraiment supprimer, c'est les AI Act et redonner un coup de boost à l'innovation européenne dans l'IA. Mm-hmm. Mais je pense, enfin, moi, ensuite, je ne suis pas en politique, hein, j'ai pas l'impression qu'il y ait aucun mouvement en ce moment.
Non, mais la problématique qu'on rencontre sur ces sujets-là, c'est que nous, on voit ça d'un œil français. Sur la vie privée et sur la protection de la donnée, les plus ayatollahs sont les Allemands qui contrôlent les cordons de la bourse et qui, en Europe.
On est mal barré.
Quelque part, aujourd'hui, le problème, c'est que les spécialités des entreprises sont différentes, les compétences sont différentes. Et donc, aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas de consensus. C'est très difficile d'obtenir un consensus en Europe. Ouais. Quand on en trouve un, la problématique, c'est encore plus difficile de le défaire. Mm-hmm. Et on en a trouvé un il y a 2-3 ans, quand les AI a émergé contre le risque des plateformes américaines. Il a mis 3 ans à sortir et il est aujourd'hui en train de réguler une réalité qui a totalement changé. C'est le constat qu'on faisait au tout début sur la régulation américaine. On ne peut pas réguler avec des moyens interétatiques, avec 25 personnes, avec une logique de consensus, des technologies qui mettent, elles, moins d'une seconde à se développer, alors qu'il faut 3 ans pour faire une loi.
Et puis, quand Arthur Mensch se met dans la position du patron de Mistral et qu'il explique comment s'installer dans chacun de ces pays, il faut ouvrir des comptes en banque à chaque fois, enfin, ouais, c'est pareil. Juste un petit mot d'ailleurs, un petit peu. Jeudi soir, ici même, sur ce plateau Tech & Co, nous aurons Guillaume Lample, l'un des 3 cofondateurs de Mistral AI, parce que Mistral AI fait sa grande journée jeudi, journée complète. Alors, il y a plein de gens de Mistral qui parlent, mais il y a aussi des Patrick Pouyanné, des Rodolphe Saadé, patron de CMA CGM et patron de CMA Média dont dépend, actionnaire principal de CMA Média dont dépend BFM Business. Voilà, il y a aussi des grands patrons qui viennent parler, donc soyez bien là jeudi soir ici avec François.
Fred, souvent, moi, quand je dis ça, on me dit « Ah, t'es un pessimiste ». Et en fait, non, moi, je pense que je suis un véritable optimiste. Et l'Europe, on a encore plein d'atouts. Moi, je considère que sur l'IA, en tout cas software, on a perdu. Et ça va être compliqué de revenir, en fait. Ça va être compliqué de rattraper les Américains et les Chinois. Et en fait, peut-être que c'est ce qu'il faut se dire. On a perdu, ok. C'est quoi le gros avantage qu'a l'Europe ? L'avantage, c'est l'industrie, et tous ces centres de recherche de l'innovation. Mmh. Et en fait, on a notre carte à jouer sur le nouveau mot qui buzz aux États-Unis, le physical AI, l'intelligence artificielle physique. Mmh. Donc en fait, j'ai envie de dire, ok, on a perdu cette guerre. Peut-être que
je suis pas tout à fait d'accord avec toi.
Ouais, moi, je suis pas d'accord non plus.
Ça va être intéressant.
Je suis pas d'accord.
Donc, ok, on peut gagner une guerre qui, je pense, est beaucoup plus rémunératrice pour les consommateurs et les actionnaires.
Et on parlera quantique.
Donc, moi, je suis ultra optimiste. Voilà, le quantique, ça fait partie.
Aussi,
le
photonique. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'on ait perdu sur ça.
Mais tant mieux. Vas-y.
Alors, moi, je suis sur plusieurs sujets. D'abord, je suis dans le edge AI, de l'industrial AI. Et le problème, c'est pas tant les compétences que c'est les clients. Donc, en fait, on peut avoir toutes les compétences qu'on veut si on n'a pas de marché. Et un marché, c'est des clients qui sont prêts à payer. Et aujourd'hui, même les boîtes européennes efficaces dans l'industrie, alors je ne te parle pas de l'industrie automobile qui est en train de s'effondrer sur elle-même et qui a des tels problèmes, et même ceux qui marchent bien, bah, grosso modo, elles sont devenues des multinationales, elles vont acheter la technologie, non pas dans leur précaré. Alors Mistral est un peu une exception, mais elle est marginale au regard des investissements que font les grandes sociétés multinationales. Elles n'ont pas cette logique qu'ont les Japonais avec Toyota et son réseau d'écosystèmes. On a drivé l'ensemble de l'industrie autour des coûts depuis 25 ans pour rester compétitif. On a fait baisser les coûts.
Puis on a des problèmes de standards, des machines.
Bref, grosso modo, malheureusement, c'est pas la compétence qui manque, c'est le marché intérieur. Et il y a plein de raisons pour l'expliquer, mais on n'y arrive pas à privilégier le Buy European Act. On n'arrive pas à le faire parce que les Américains ont bien veillé à ce que le libre-échange s'applique surtout pas à eux et qu'il n'y ait pas de préférence européenne sur la plupart des achats. Il faut voir tous les débats qui ont lieu encore autour de ça. Mm-hmm. Small Business Act, il existe aux États-Unis, il n'existe toujours pas en Europe. Ça fait 25 ans que...
Bon, je ne pense pas que les Américains soient les coupables, mais je pense que c'est plus la division européenne. Mais...
Whatever. Et puis, donc, sur le deuxième point sur le logiciel, sur lequel... en fait, il faut qu'on ait une stratégie à la chinoise. C'est-à-dire, quelque part, il ne faut pas dire qu'on est encore des grands. On doit rattraper, et pour rattraper, tous les coups sont permis. Il faut avoir une logique d'underdog pour aller récupérer. Et donc, c'est quoi nos armes ? Le savoir-faire mathématique, les algorithmes open source, l'énergie bon marché.
L'énergie bon marché.
Et donc, en fait, avec ça...
Ce qui nous manque, c'est peut-être parfois la data aussi.
Non, elle existe, la data. Par contre, la capacité de la manipuler, c'est-à-dire le cadre réglementaire. Mais si, effectivement, on considère encore l'Europe comme une grande puissance au même statut que la Chine et les États-Unis et qu'on essaie d'avoir des réglementations encore plus rigoureuses parce qu'on on peut pas y arriver parce qu'on a déjà deux boulets aux deux pieds.
Michel ?
Non, mais je suis d'accord avec Thomas. Je pense qu'aujourd'hui, on va en parler peut-être avec DeepSeek. Position clairement sur les modèles fondation, on est loin et on a perdu la bataille. C'est pas la peine d'y aller. Les Chinois sont en train de la gagner, mais on est d'accord sur ce point. Sur l'énergie, on a des forces, mais malheureusement, la situation en Europe nous empêche en fait de déployer nos forces, notamment avec le nucléaire. Là, on est très fort et c'est sur la couche intermédiaire qui est liée aux applications en fait. On est en train de rentrer dans l'ère des agents. Les agents vont changer radicalement la manière dont on va utiliser l'IA. L'IA va évidemment continuer à être utilisée pour générer du contenu, mais elle va surtout être utilisée pour nous aider à décider, pour nous aider à filtrer toute la matière qu'on a à traiter au quotidien. Et là, on a une carte à jouer parce qu'on a des cerveaux, on a des chercheurs, on a des ingénieurs que les Américains viennent nous prendre au passage.
Bien sûr.
Sur la partie applicative, donc software, qui va se baser sur des modèles open source, peut-être chinois d'ailleurs, et qui va aller chercher de l'énergie peu chère parce qu'on va avoir besoin d'inférence, donc on va avoir besoin de data center, donc on va avoir besoin d'énergie. On a encore des cartes à jouer, mais il faut qu'on arrête de réguler et qu'on dérégule et qu'on laisse les entrepreneurs travailler.
Justement, tous ces éditeurs qui ont fait de la facturation électronique, qui ont fait des logiciels pour les RH et tout ça. C'est vrai qu'on a de belles pépites en fraise en France. Alors certains ont été
achetés. On est encore un peu fraise.
Ouais, on est encore un petit peu fraise. Mais voilà, cette bascule sur l'IA. Juste un dernier mot sur cette étude là, dont vous pouvez retrouver les chiffres sur Eurostat, qui disait qu'on manquait aussi de compétences techniques, malgré tout. Risque de donner. Alors, je pense que je sais pas quand est-ce qu'elle a été faite, mais aujourd'hui avec les agents, on commence à ces compétences techniques. Enfin, on a plus besoin d'orchestrateurs, techniciens. Et puis, il faut toujours ce côté formation. Et alors, je voulais qu'on parle d'un sujet très important. C'est un sujet sur la guerre des prix, dans le domaine IA. C'est une petite annonce. Enfin, annonce un peu anodine qui passe dans un marché, un entrefilé. DeepSeek, donc le chinois DeepSeek, coupe les prix de 75% sur son modèle V4 Pro. 75% de réduction. Au début, on s'est dit, ils veulent accrocher plus de monde. Là, ça commence à poser de sérieuses questions parce que déjà qu'on s'interroge sur le business model à l'abonnement de tous ces acteurs. Là, on se dit que parce que Google avait déjà divisé par deux aussi le prix de son.
Oui. Alors en fait, moi j'ai une petite anecdote parce que j'ai été frappé par la difficulté à un moment donné due à Anthropic qui du jour au lendemain a arrêté d'autoriser l'usage de certains agents, en l'occurrence OpenClaw, avec leur modèle. Il s'avère que j'ai une start-up qui déploie des fermes d'OpenClaw, d'accord, en quelques clics, et qui utilisait jusqu'à présent Anthropic. Au moment même où Anthropic a arrêté d'autoriser l'usage d'OpenClaw avec ces modèles, les Chinois ont diffuser leur modèle open source à des prix ridicules. À tel point que il y en a plein. Il y a Kimi, il y a Quen, il y a DeepSeek.
Et derrière, on trouve un Quen, c'est Alibaba. Kimi.
Exactement.
Et qui sont hébergés. Tencent, Alibaba.
Et qui sont hébergés soit à l'étranger, qui sont hébergés à Singapour, qui peuvent être hébergés aux États-Unis. Il y en a peu en Europe encore qui les hébergent, les derniers modèles, mais qui sont surtout hébergés chez Alibaba à des prix mais dérisoires. Et quand je dis des prix dérisoires, c'est-à-dire qu'on atteint le niveau de qualité quand on utilise un agent comme OpenClaw de Opus 4.6 ou même 4.7, qui est le tout dernier modèle d'Anthropic, qui vaut en moyenne $15 le million de tokens. Ils le vendent $0.5 le million de tokens, DeepSeek. Donc c'est quasiment de la gratuité.
On est
à 30 fois moins cher.
Juste un petit parallèle là-dessus. J'étais sur ce plateau le jour où DeepSeek a sorti son modèle R2, R1, je ne sais plus.
Pour rappel, DeepSeek avait annoncé un modèle tout aussi performant, voire plus que celui de ChatGPT, sans puce Nvidia. Ils avaient dit qu'il l'avait. Su qu'après, il l'avait un peu développé dessus. Mais surtout, à un coût. Ça nous a coûté quelques millions, alors sans doute quelques dizaines de millions. Mais comparé aux milliards, et du coup, l'action d'Nvidia avait plongé.
L'action d'Nvidia avait plongé. Est-ce qu'on a autant besoin de power, de puissance de calcul, etc. Et en fait, c'était un peu le stress. Là, c'est marrant parce que donc c'est 30 fois moins cher. Bon, en fait, il y a le paradoxe de Jevons, là, Jevons paradoxe. Mm-hmm. En fait, on a réalisé depuis que DeepSeek a sorti son modèle qu'en fait, l'utilisation de l'IA, elle est exponentielle. Et donc, c'est pas parce que le prix est baissé par 30, bon, c'est pas le prix qui est baissé par 30, que l'utilisation va baisser. Mais c'est assez intéressant parce que ils l'ont annoncé, personne ne flippe, en fait.
Il y a plusieurs phénomènes qui sont en train de se passer. La première chose, c'est que, on sait quand même qu'aujourd'hui, tout l'utilisateur de l'IA, notamment des gros américains, est sponsorisé massivement par le marché du capital, risque et bientôt boursier. Donc, quelque part, on est tous à la, enfin, à part Google et Microsoft qui ont des business models qui leur permettent de subventionner leurs besoins, les autres, et Meta, les autres sont tous à la recherche d'une certaine profitabilité. Donc, ils ont deux stratégies. Première stratégie qui consiste à gagner de la part de marché et donc à faire en sorte qu'on ne paye pas le prix du token. La deuxième stratégie, c'est d'être le plus vite possible rentable pour pouvoir, derrière, avoir une position de soutenabilité de son modèle. On voit que OpenAI était quand même plutôt dans la partie part de marché quand la stratégie d'Anthropic a été de augmenter ses prix. Ce qu'on constate, c'est grâce à l'exponentielle de la demande, c'est qu'Anthropic, maintenant, est rentable. Donc, quelque part, il y a un truc très, très important qui vient de se passer. Mm-hmm. C'est que peut-être qu'OpenAI est encore la marque la plus connue, mais Anthropic est la première marque de l'AI at scale rentable, parce qu'on ne voit pas comment un Chinois peut l'être rentable, etc.
Donc, et dans plusieurs domaines, hein, les développeurs avec Claude...
Absolument, absolument. Mais ça, c'est très intéressant, parce qu'on voit bien que maintenant, la stratégie d'Anthropic, au-delà de faire de la com, c'est quand même de gagner du pognon. Mm-hmm. Pour moi, qui les utilise très intensivement ces temps-ci, on voit bien qu'il y a même des tweaks où ils s'arrangent pour rendre le prix du token pas du tout clair.
Comme la drogue, tu l'as
exactement. Parce que quelque part, tu en as toujours besoin au moment où ça s'arrête. Il faut que tu reprennes un petit shot et c'est organisé pour te faire payer de plus en plus. Donc ça, ça crée à la fois une grande opportunité de devenir actionnaire d'Anthropic, mais également une opportunité pour les Chinois de rentrer sur le marché. Sauf que on a cette côté addictif. C'est-à-dire, quelque part, on en parlait tout à l'heure sur le switcher de Claude à OpenAI. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de modèles qui sont basés sur Claude ou autre. J'ai peur, quand je vais changer sur un modèle open source chinois, de est-ce que ça va marcher aussi bien, ça. Et cette peur, elle est d'autant plus grande que d'ailleurs, maintenant, j'ai construit un business sur Claude et sur OpenAI. Et donc, ils ont cette logique de stickiness de leur plateforme. Sur les Chinois, et en fait, ce qui est intéressant et que j'ai découvert un peu en creusant, c'est, en fait, on achète du cloud. On n'achète pas vraiment de l'IA. On n'achète pas du logiciel. Le logiciel, c'est quasiment gratuit.
Référence.
On achète de la puissance de calcul, donc on achète de la puissance dans un data center. Ouais. Et donc, on ne se rend pas vraiment compte, et c'est homogène, entre le modèle qui existe, et puis finalement, la RTX, le truc NVIDIA qu'on achète, et qui fait le modèle. Et donc, comme on ne comprend pas vraiment ce qu'on achète quand on achète du cloud, à part chez OpenAI ou chez Anthropic, eh bien, en fait, quand les prix des Chinois baissent, la question c'est est-ce qu'on achète du cloud chinois ? Est-ce qu'on achète le modèle sur un cloud européen ? Et finalement, c'est la somme des deux, ça coûte combien ? Et
en fait, ils sont dans leur stratégie industrielle qu'ils ont toujours eu quelque part.
Et il va y avoir probablement des opportunités de faire des data centers en Europe avec des bundles avec des entreprises chinoises sur des modèles open source. Moi, c'est ce que je déploie aujourd'hui. Et ça coûte vraiment pas cher, je suis d'accord. Maintenant, on maîtrise pas encore bien tous les
données. Pourquoi ils caissent brutalement les prix ? Est-ce que
c'est une stratégie de dumping ? Les Chinois ont toujours fait du dumping. Donc, ils distribuent massivement, quasiment gratuitement, leurs modèles, qui permet d'ailleurs aux Européens potentiellement de les héberger chez eux. Et à côté, ils font en sorte que tout le monde aille sur Alibaba parce que le token est très bas. Mais le problème, c'est que en Europe, et moi, pour mon business, j'ai cherché des entreprises française ou européenne, qui hébergent les tout derniers modèles, comme DeepSeek ou Qwen. Mais aucun d'entre eux, je ne vais pas les citer sur ce plateau, mais j'ai fait le tour en France, aucun d'entre eux n'héberge les tout derniers modèles. Ils sont sur les vieux modèles R1 et R2 de DeepSeek.
Et pourquoi ?
Alors, il y a une autre raison à cela, c'est que pour faire tourner ces modèles DeepSeek, il faut des machines conséquentes. Il faut un B300 qui vaut $1 million la machine, à minima. Et puis, il en faut plusieurs.
Il faut du support technique aussi.
Et donc, en fait, il faut de l'investissement. Et ce n'est pas rentable. Clairement, ça n'est pas rentable. Ça veut dire que Alibaba fait aussi du dumping. Donc, on est dans une course où les Chinois sont en train de capter le marché. Comme tu le disais, nous habituer à utiliser leurs outils, finir par avoir confiance aussi en leur modèle.
et à un point où on va se dire, bon, bah, finalement, toute notre infrastructure potentiellement a basculé sur ces outils-là. Il n'y a pas de raison que je change. D'autant qu'ils vont peut-être remonter les prix, mais ça va devenir tout de même quand même raisonnable et inférieur au prix des Américains. Et ils auront probablement gagné la guerre.
Ouais, mais tu connais beaucoup de boîtes corpo qui seraient prêtes à. Aucune. Il n'y a aucune boîte française dans, en européenne.
Corpo, non. Mais non. C'est, en fait, le marché.
Mais même en start-up, en fait. Non, tu ne peux rien vendre derrière.
Mais parce que tu raisonnes B2B. Mais le marché des agents, aujourd'hui, il est aussi un marché B2C. Tu demandes à n'importe quel... Je te rappelle que 50% des Français ont basculé sur l'IA. Demain, l'enjeu, ça n'est pas ChatGPT, ça n'est pas Anthropique, ce sont des agents personnalisés. Donc,
ouais, mais il y aura toujours le stigma, le c'est chinois, B2C, j'y touche pas.
Le marché B2C, quand tu te retrouves avec des outils qui te gèrent ton quotidien, qui sont extrêmement puissants, qui coûtent quasiment rien, voire qui sont gratuits, va expliquer aux utilisateurs de ne pas les utiliser.
Je pense que quand l'AI, je pense qu'on peut rebondir sur ça, c'est intéressant. C'est que, en fait, le mieux aujourd'hui pour faire de l'AI, comme tu viens de le décrire, c'est, d'ailleurs, ça explose, hein, c'est le Mac Mini qui héberge vos propres agents, le fameux OpenClaw. Et effectivement, c'est un très, très bon deal. Ça coûte 500 000 euros de prendre des vieux Mac, hein, ça marche très bien. Et donc, en fait, aujourd'hui, on va avoir les Chinois qui ont gagné la bataille du Edge AI.
D'accord. Donc, parce que c'est graphique.
Donc, à part le graphique, le Edge AI, c'est vraiment ce que tu dis, l'IA générative à la maison. Et donc, ça, on va avoir de plus en plus de besoins pour des raisons de souveraineté. Et là, c'est les modèles open source chinois qui ont gagné. On aimerait bien que Mistral soit compétitif sur ça, mais ils ont du mal. Ils sont pas, et en tout cas, ils sont rattrapés par les autres. Et donc, il y a un segment de marché que tu viens de décrire, qui est le segment marché IA consommateur, qui va de plus en plus être hébergé parce que les gens ont quand même peur que ça soit sur du modèle chinois. Tu auras du modèle chinois sur du hardware américain hébergé à Paris.
Si tu peux me permettre, 30 secondes. En fait, Michel, le Mac Mini, l'option Mac Mini qui est à 1000 euros, nous, c'est exactement ma start-up, on crée des open claw pour 10 euros par mois. C'est pas 1000 euros par mois, mais 10 euros par mois. Et ça, c'est un marché B2C qui, à mon avis, va être massif, en tout cas, qui l'est déjà en Chine.
Parce qu'on rappelle, en gros, on le disait tout à l'heure dans le couloir, donc le Nvidia est là avec toutes les puces graphiques et leur environnement CUDA aussi, de développement. On a les Microsoft, Amazon, Google qui sont avec leur TPU. Et puis on commence alors à essayer de surnager un peu dans tout ça. Et puis on a, c'est vrai qu'Apple a peut-être joué un sacré coup avec son silicone.
Pour expliquer aux téléspectateurs, parce que ça fait un peu discours d'initié, Apple, il y a 10 ans, s'est mis à faire son propre semi-conducteur. Et ils ont eu une intuition de génie, on pourrait dire un coup de bol, c'est de faire en sorte que la mémoire qui est destinée à la partie graphique et la mémoire qui est destinée à la partie calcul soient partagées. Et donc, contrairement à un PC qui a d'un côté à une carte Nvidia pour faire du graphique et de l'autre côté un processeur Intel ou AMD pour faire tourner, et donc il y a deux processeurs qui ont chacun leur mémoire pour fonctionner, Apple a fait ce truc qui, aujourd'hui à l'ère de l'IA, permet de transformer n'importe quel produit Apple en une machine à faire de l'IA. Tant qu'on ne fait pas de graphique, parce que là, Nvidia reste au domaine. Ce qui veut dire que l'incontestabilité à long terme de Nvidia est en train de se fragmenter entre le graphique où ils sont irrattrapables et le compute qui, côté individuel, sera probablement géré par des machines Apple pour ce qu'on vient de décrire, ou côté cloud sera géré probablement par des TPU de Google.
Est-ce que ça veut dire tu disais les Chinois sont en train de faire du dumping, mais est-ce que là aussi ils se disent tiens on va donner un sacré coup dans la fourmilière et puis si on casse les prix tu vois Google a déjà divisé par deux on va faire mal aussi aux acteurs.
Bien sûr, ils sont en train de c'est le jeu de la concurrence aujourd'hui alors avec le delta des utilisateurs qui ne souhaitent pas basculer pour des raisons diverses et variées éthiques sur des solutions chinoises. Mais moi je suis curieux de voir dans quelle mesure les modèles américains OpenAI et Anthropique commençant à être
rentables. N'oublions pas Google Gemini aussi
Google Gemini qui a baissé radicalement leur prix vont maintenir quand même leur marge. Je pense qu'Anthropique va avoir du mal à maintenir ses marges.
Oui, un peu
parce
comme
que c'est les plus chers aujourd'hui du marché.
T'as pas un monde, je sais pas si c'est la bonne analogie, mais aujourd'hui, t'as des gens qui achètent des iPhones et des Samsung, mais t'as des gens, ça leur dérange pas d'acheter des Oppo, par exemple, ou les marques chinoises. C'est une analogie lointaine, hein.
Mais en fait. C'est pour ça que je parlais du marché B2C, c'est-à-dire.
Et à partir du moment où elles se rendent compte que c'est cher. Et qu'elles ont à peu près le même niveau
de service, finalement. Oui, mais c'est une commoditisation, finalement, des modèles. Exact. Le modèle est en train de se commoditiser et on va construire au-dessus du modèle des couches qui vont être plus intelligentes. Et c'est là que les Français ont une carte à jouer. Parce que
en fait, il faut qu'on arrête de se battre sur les modèles fondation. On n'a plus les moyens de le faire. C'est vraiment sur les couches d'orchestration qui sont au-dessus et devenir agnostique. Si on veut utiliser du chinois, on utilise du chinois. Si après-demain, on veut utiliser une solution américaine, on utilisera une solution américaine. Mais on a encore une carte à jouer là-dessus.
Messieurs, je sais plus quel sujet. C'était SpaceX dont tu avais vu le sujet. Je vais dire à Julien Thébault qui nous suit. On va basculer juste sur le sujet de SpaceX là pour les 5-6 minutes qui nous restent sur cette demi-heure là. Puis on va se retrouver juste après pour enchaîner sur d'autres sujets parce que justement, enfin voilà, pour la petite histoire, Augustin doit nous quitter dans une dizaine de minutes. Du coup, on t'écoute SpaceX. Tu vois ça des États-Unis. Enfin, c'est attendu comme la grande entrée en bourse.
Alors SpaceX, il y a une, enfin jusqu'à, je crois qu'ils ont déposé le S1 ce week-end. Sur Twitter, tout le monde voulait absolument lire le S1. Donc c'est le S1, c'est le document de qui peut faire 200 à 600 pages que tu déposes auprès de l'AMF américaine. Que fait ta boîte avant une cotation en bourse? C'est assez intéressant.
Il y a des chiffres à l'intérieur qui sont intéressants.
Et donc moi, le chiffre que je retiens, c'est marrant parce que, en fait, c'est assez intéressant. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Facebook devait être coté en bourse, tout le monde disait la boîte va valoir 100 milliards, il faut qu'elle vaille 100 milliards. Et en fait, les gens ont commencé à s'intéresser aux chiffres, on dit non, mais ça ne peut pas valoir plus de 50 milliards. Et quand on y pense, Facebook s'est sorti en bourse à une valeur de 50 milliards, qui était quand même plus rationnel par rapport à leurs chiffres. Je ne pourrais pas dire quel multiple de revenus ils avaient à l'époque. Là, pour que, je crois qu'on est sur une valo à plus de 1,5 trillion.
Oui, il y a certains 1250.
1500 milliards.
Certains disent que ça pourrait monter à 1700 milliards pour une entreprise qui fait 18 milliards 6 de revenus, qui aujourd'hui est valorisée 2000 milliards à peu près. Et surtout, on apprend qu'elle perd
Alors c'est ça le chiffre.
1,5 milliard par trimestre.
Je crois que l'année dernière, elle était profitable d'un petit milliard. Cette année, elle perd 5 milliards. Et c'est vrai qu'on se dit, est-ce que c'est vraiment le genre de boîte qui peut valoir autant? Mais c'est là aussi le génie d'Elon Musk, ensuite, et de son espèce de culte qu'il a créé derrière lui, qui arrive à convaincre des gens via Twitter, via X. En fait, mon SpaceX, il vaut 1,5 milliard. Le dernier truc que je vais dire, 1,5 milliard, c'est que mine de rien, derrière SpaceX, il y a quand même une histoire qui fait rêver les gens, un peu à l'Avatar. Et il y a beaucoup de gens qui achètent ce rêve. C'est la conquête de Mars, l'espèce humaine
Juste un mot, comme tu es aux États-Unis là-bas, le côté Musk, secrétaire d'État de Donald Trump pour couper dans les coups, ça, c'est encore bien présent ou peu à peu ça c'est un peu...
Non, je pense que les gens, enfin moi ma vue, les gens ont oublié en fait. Ouais. Ils sont revenus au OK, on en retourne Elon Musk le génie. Ensuite, il y a toutes les thèses. Il y a beaucoup de Tesla à San Francisco. Derrière, il y a marqué « J'ai acheté cette Tesla avant qu'Elon devienne fou ». Mais bon, les gens apprécient cet homme, en fait.
Thomas.
Ce qui est intéressant sur cette IPO, d'abord, c'était qu'elle est extrêmement nécessaire à l'ensemble de l'écosystème, puisqu'elle offre des perspectives de valorisation. Mm-hmm. Il y a mélangé plein de choses, mais il y a mélangé plein de monopoles ou de quasi-monopoles. Le premier monopole qui fait la beauté de ce truc-là, c'est le fameux Starlink.
Oui.
C'est-à-dire quelque part, il a créé.
C'est le moteur. Quand tu lis le document, c'est le moteur de la croissance. Hein.
Absolument.
Oui, c'est le gros du chiffre d'affaires.
Et donc ça, c'est très profond. On se rend pas compte à quel point les opérateurs internationaux qui dictaient l'accès sont en train de se retrouver complètement marginalisés.
Quand tu auras l'accès directement sur ton mobile.
Donc, alors il y a encore un peu de temps, mais grosso modo, le monopole sur la connectivité globale, on a laissé Musk. On a laissé, c'est parce que c'est pas arrivé en un an, c'est arrivé en 20 ans avec l'argent et le sponsoring du gouvernement américain. On a laissé Musk privatiser l'espace.
2004 ou 2008, il y a une grande conférence, il dit les gars, pas la peine de. Donc, je vous laisse parler, dans 15 ans.
T'as vu la vidéo du patron d'ArianeSpace là qui refait surface sur X qui disait en 2013 SpaceX, ils sont gentils, ils nous font rêver, mais on peut ignorer.
Voilà, donc
ça, c'est dur.
On a laissé, et faut voir l'échec complet de l'Europe qui avait les compétences spatiales, l'échec même des Boeing et des concurrents de Musk. Musk a réussi à privatiser l'espace au nez, à la barbe de tout le monde. C'est un coup de. Enfin, un espace. Enfin, privatiser l'espace, c'est beaucoup.
Surtout from scratch.
Oui, oui. Donc, premier truc extraordinaire. Deuxième truc extraordinaire, c'est l'intégration verticale. Parce que quelque part, XAI joue marginalement, mais c'est effectivement, il a le monopole, enfin, il a quasiment un quasi-monopole sur le lancement. Il n'y a que lui qui peut mettre, donc là, on lui a mis un concurrent avec, avec Bezos. Donc, deuxième monopole, j'ai le monopole de l'espace et des vecteurs pour y aller. C'est quand même, si on regarde ce qu'on a laissé faire. Et le troisième truc, c'est sur, il a créé avec, grâce à Tesla, l'argent de Tesla et une histoire qui a été très, je protège la planète, un très très gros parc de compute. Et on voit que la croissance d'Anthropique, elle est rentable d'Anthropique, elle vient d'autant de ses utilisateurs que de la baisse de ses coûts d'hébergement grâce à la puissance de calcul que XAI est en train de fournir. Et donc, on est en train de se penser que XAI, dont on pensait que c'était un opérateur concurrent des autres, en fait, XAI aujourd'hui...
Il est au service.
Il est devenu ce que les cloud providers ou les telcos. Et donc, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a créé le telco du 21e siècle, à la barbe et au nez de tout le monde, et on le laissait faire.
On va marquer une courte pause, on va revenir sur ce sujet-là, hein, Michel, pour écouter tout ça. Merci, Augustin, de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous. On va te libérer. Mais nous, on va continuer le débat, parce que déjà, je voudrais écouter Michel et redébattre sur ce sujet de SpaceX. On va parler ensuite de Nvidia, Nvidia qui investit dans Alice Boy. Et puis, tiens, si on a le temps, toute fin d'émission, vous aimiez la R5 électrique? Vous aimiez? Vous avez. Appréciez la Twingo électrique, et bien la deux chevaux, la deux douches électrique, elle revient et on va en parler avec nos amis. Restez avec nous, on est encore ensemble jusqu'à 21h, Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.